Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку. Региональный этап для учащихся 9-11 классов. Уровень сложности B2. Конкурс понимания устного текста.
Compréhension de l'oral. Vous allez entendre deux fois un enregistrement sonore de 4 minutes environ. Avant la première écoute, vous aurez 2 minutes pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 5 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Vous aurez encore 10 minutes pour compléter vos réponses. Lisez maintenant les questions. Vous avez 2 minutes. Écoutez l'enregistrement.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, bienvenue dans la danse des mots et bienvenue dans le monde de la manipulation aujourd'hui. Et quand on parle de manipulation, ça fait toujours un petit peu frissonner parce que si on est manipulé, ça veut dire que quelqu'un vous enjoint de faire quelque chose que vous n'auriez pas fait dans une autre circonstance. C'est de cela que parle le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, paru tout récemment au PUC, c'est-à-dire aux presses universitaires de Grenoble. Et je suis très reconnaissant aux deux auteurs, Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent, Vincent Joule, d'avoir mis un titre aussi long, petit traité de manipulation, soit, mais à l'usage des honnêtes gens, car il s'agit de ne pas faire peur aux gens et de leur montrer que la manipulation est une donne de la vie quotidienne et qu'il n'est pas nécessaire d'être gangster pour manipuler son prochain. Robert-Vincent Joule, bonjour, merci beaucoup donc d'être avec nous bonjour. Pour nous parler de ce traité. Vous êtes universitaire, c'est-à-dire que vous êtes prof.
Ah oui, personne n'est parfait. Hein.
Vous êtes prof de psychologie à l'université.
De psychologie sociale, précisément.
De psychologie sociale. Et vous avez donc fait paraître avec votre confrère Jean-Léon Beauvois ce traité de manipulation qui montre que quand on fait quelque chose, on est toujours plus ou moins conditionné par un environnement et ce qui s'est passé dans les minutes ou les heures qui ont précédé.
Oui, c'est même tout l'enseignement de la psychologie sociale, hein, qui, discipline qui montre combien nos pensées, nos comportements, nos émotions, nos jugements, Nos raisonnements sont influencés par le contexte dans lequel on se trouve.
C'est ça la psychologie sociale.
Oui, donc. C'est ce que montre la psychologie sociale.
Donc, vous étudiez, en gros, les comportements sociaux des gens.
Oui, oui, oui.
Et vous vous êtes penché sur cette affaire de manipulation. Pourquoi ce mot de manipulation ? Est-ce que les mots avec lesquels on va s'exprimer ont une grande importance ? Comment justement faut-il s'y prendre pour, je dirais, apprivoiser la personne et l'amener à faire quelque chose que, spontanément, dans un premier temps, il ne ferait pas ? Est-ce que les mots sont importants ?
Oui, les mots peuvent s'avérer extrêmement importants et là, je pense notamment à une des techniques que nous décrivons dans cet ouvrage qui s'appelle le « Vous êtes libre d'eux ». C'est une technique vraiment passionnante, déroutante, et j'en parle volontiers parce qu'elle a été découverte, cette technique, par des chercheurs français, notamment Nicolas Guéguen et Alexandre Pasquale. Alors voilà la technique. Arrêt de bus, vous adressez à quelqu'un qui attend, excusez-moi de vous déranger, je viens de me rendre compte que j'ai laissé mon porte-monnaie à la maison, il faut absolument que je prenne le bus. Est-ce que vous pourriez me dépanner ? Voilà la façon dont vous allez vous adresser à une personne sur deux. Une personne sur deux, vous lui rajoutez, évidemment, vous êtes libre de m'aider ou pas. Donc, une personne, vous arrêtez votre propos avant d'avoir dit vous êtes libre d'eux, et pour une personne sur deux, par exemple, 1, 3, 5, 7, je m'arrête avant vous êtes libre d'eux, et 2, 4, 6, 8, 10, etc., j'ajoute, évidemment, vous êtes libre de m'aider ou pas. Alors, regardons, c'est vraiment passionnant. On constate d'abord que la probabilité d'être aidé n'est pas du tout la même. Vous n'avez pas ajouté « vous êtes libre d'eux », 10% vous aide. Vous avez ajouté « vous êtes libre d'eux », 47% vous aide. Et ce qui est formidable, c'est de constater que le service n'est pas le même. Vous n'avez pas ajouté « vous êtes libre d'eux », on vous donne en moyenne la moitié de ce que vous demandez, 50 centimes, alors que vous avez besoin d'un euro pour prendre le bus. Mais si vous avez ajouté « vous êtes libre d'eux », les gens vous donnent exactement ce que vous avez demandé, un euro. Vous gagnez sur deux tableaux, vous avez augmenté la probabilité de voir les gens faire ce que vous leur demandez de faire, mais vous avez augmenté également la qualité de ce qu'ils font pour vous.
Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui se passe justement ? Pourquoi est-ce qu'on va amollir, adoucir la relation quand on dit à quelqu'un « vous êtes libre de m'aider ou pas ?»
Bon, je ne peux pas vraiment entrer dans les explications théoriques, mais quand même, ce que montrent les recherches, il y a quelques années, j'ai dirigé une thèse interculturelle, montre que cette technique-là, contrairement à la dizaine ou à la douzaine des techniques que nous exposons dans l'ouvrage que vous avez cité, cette technique-là ne vaut, ne fonctionne, n'est opérante, n'est efficace que dans certaines cultures, et notamment les cultures, on va dire, individualistes et démocratiques. On a réalisé ce type d'expérimentation dans des pays plus collectivistes et moins démocratiques. On n'a plus l'effet du vous êtes libre d'eux. Et les recherches
ça marche moins bien,
ouais. Voire ça ne marche pas du tout.
Ouais.
Que ce qui compte, c'est de doter la personne d'un statut de sujet libre, mais quels que soient les mots finalement qu'on utilise. Par exemple, des phrases comme « Maintenant, c'est à vous de voir si vous souhaitez m'aider ou pas.
Mm-hmm. »«
Maintenant, bien sûr, monsieur, c'est vous qui décidez. » permettent d'obtenir exactement les mêmes résultats.
Commencez à répondre aux questions. Vous avez 5 minutes. Écoutez l'enregistrement.
La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, bienvenue dans la danse des mots et bienvenue dans le monde de la manipulation aujourd'hui. Et quand on parle de manipulation, ça fait toujours un petit peu frissonner parce que si on est manipulé, ça veut dire que quelqu'un vous enjoint de faire quelque chose que vous n'auriez pas fait dans une autre circonstance. C'est de cela que parle le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, paru tout récemment au PUG, c'est-à-dire aux presses universitaires de Grenoble. Et je suis très reconnaissant aux deux auteurs, Jean-Léon Beauvois et Robert Vincent, sans Joule, d'avoir mis un titre aussi long, petit traité de manipulation, soit, mais à l'usage des honnêtes gens, car il s'agit de ne pas faire peur aux gens et de leur montrer que la manipulation est une donne de la vie quotidienne et qu'il n'est pas nécessaire d'être gangster pour manipuler son prochain. Robert Vincent Joule, bonjour, merci beaucoup donc d'être avec nous pour nous parler de ce traité. Vous êtes universitaire, c'est-à-dire que vous êtes prof.
Oui, personne n'est parfait. Hein.
Vous êtes prof de psychologie à l'université.
De psychologie sociale, précisément.
De psychologie sociale. Et vous avez donc fait paraître avec votre confrère Jean-Léon Beauvois ce traité de manipulation qui montre que quand on fait quelque chose, on est toujours plus ou moins conditionné par un environnement et ce qui s'est passé dans les minutes ou les heures qui ont précédé.
Oui, c'est même tout l'enseignement de la psychologie sociale, hein, qui, discipline qui montre combien nos pensées, nos comportements, nos émotions, nos jugements, nos raisonnements sont influencés par le contexte dans lequel on se trouve.
C'est ça la psychologie sociale.
Oui, donc. C'est ce que montre la psychologie sociale.
Donc, vous étudiez, en gros, les comportements sociaux des gens.
Oui, oui, oui.
Et vous vous êtes penché sur cette affaire de manipulation. Pourquoi ce mot de manipulation? Est-ce que les mots avec lesquels on va s'exprimer ont une grande importance? Comment justement faut-il s'y prendre pour, je dirais, apprivoiser la personne et l'amener à faire quelque chose que spontanément, dans un premier temps, il ne ferait pas? Est-ce que les mots sont importants?
Oui, les mots peuvent s'avérer extrêmement importants et là, je pense notamment à une des techniques que nous décrivons dans cet ouvrage qui s'appelle le « Vous êtes libre d'eux ». C'est une technique vraiment passionnante, déroutante et j'en parle volontiers parce qu'elle a été découverte, cette technique, par des chercheurs français, notamment Nicolas Guéguen et Alexandre Pasquale. Alors voilà la technique. Arrêt de bus, vous adressez à quelqu'un qui attend. Excusez-moi de vous déranger, je viens de me rendre compte que j'ai laissé mon porte-monnaie à la maison, il faut absolument que je prenne le bus. Est-ce que vous pourriez me dépanner ? Voilà la façon dont vous allez vous adresser à une personne sur deux. Une personne sur deux, vous lui rajoutez. Évidemment, vous êtes libre de m'aider ou pas. Donc, une personne, vous arrêtez votre propos avant d'avoir dit vous êtes libre d'eux. Et pour une personne sur deux, par exemple, 1, 3, 5, 7, je m'arrête avant vous êtes libre d'eux. Et 2, 4, 6, 8, 10, etc. J'ajoute, évidemment, vous êtes libre de m'aider ou pas. Alors, regardons, c'est vraiment passionnant. On constate d'abord que la probabilité d'être aidé n'est pas du tout la même. Vous n'avez pas ajouté « vous êtes libre d'eux », 10% vous aide. Vous avez ajouté « vous êtes libre d'eux », 47% vous aide. Et ce qui est formidable, c'est de constater que le service n'est pas le même. Vous n'avez pas ajouté « vous êtes libre d'eux », on vous donne en moyenne la moitié de ce que vous demandez, 50 centimes, alors que vous avez besoin d'un euro pour prendre le bus. Mais si vous avez ajouté « vous êtes libre d'eux », les gens vous donnent exactement ce que vous avez demandé, un euro. Vous gagnez sur deux tableaux, vous avez augmenté la probabilité de voir les gens faire ce que vous leur demandez de faire, mais vous avez augmenté également la qualité de ce qu'ils font pour vous.
Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe justement? Pourquoi est-ce qu'on va amollir, adoucir la relation quand on dit à quelqu'un « vous êtes libre de m'aider ou pas ?»
Bon, je ne peux pas vraiment entrer dans les explications théoriques, mais quand même, ce que montrent les recherches, il y a quelques années, j'ai dirigé une thèse interculturelle, montre que cette technique-là, contrairement à la dizaine ou à la douzaine des techniques que nous exposons dans l'ouvrage que vous avez cité, cette technique-là ne vaut, ne fonctionne, n'est opérante, n'est efficace que dans certaines cultures, et notamment les cultures, on va dire, individualistes et démocratiques. On a réalisé ce type d'expérimentation dans des pays plus collectivistes et moins démocratiques. On n'a plus l'effet du « vous êtes libre d'eux ». Et les recherches
ça marche moins bien,
ouais. Voire ça ne marche pas du tout.
Ouais.
Que ce qui compte, c'est de doter la personne d'un statut de sujet libre, mais quelle que soit les mots finalement qu'on utilise. Par exemple, des phrases comme « Maintenant, c'est à vous de voir si vous souhaitez m'aider ou pas. Mm-hmm. Maintenant, bien sûr, monsieur, c'est vous qui décidez. » permettent d'obtenir exactement les mêmes résultats.
Vous avez 10 minutes pour répondre aux questions. Il vous reste 2 minutes pour terminer le travail. L'épreuve est terminée. Veuillez poser vos stylos.